Alors bonjour à tous ceux que j'ai pas encore eu le temps de saluer. Quel plaisir d'être de nouveau parmi vous ce matin. On a vu donc la perspective du Fils, comment sur terre il s'avance vers sa croix en toute connaissance de cause, le faisant volontairement pour assumer son identité par amour de son peuple, par amour de son Père. Mais il y va seul, pour souffrir seul, pour nous, pour prendre notre place. Et qu'après cela, il a toute autorité, grâce à cette croix qu'il a acceptée pour nous. Et puis nous voyons aussi que le Père, lui, il a sa perspective, une perspective riche, complexe. Il ne faut jamais, jamais opposer le Père et le Fils dans l'œuvre de la croix. Parce que le Père y éprouve à la fois la colère sainte et juste contre le péché qui détruit et la souffrance de son peuple qui s'auto-détruit par le péché. Et il prend la décision, hein, au sein de la Trinité, de toute éternité, de résoudre ce problème à travers la croix du Christ. Incroyable. Quel amour. Mais comment cela, comment cette croix prend-elle sa place dans notre vie de tous les jours? Parce qu'il y a 2000 ans, le Christ a accepté d'aller vers sa croix en Palestine. Et depuis toute éternité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit conçoit cette croix. Mais nous, 2000 ans après, le croyant que je suis, les croyants que vous êtes, comment nous allons pouvoir nous approprier cette croix dans la vie de tous les jours? Quelle est la perspective du croyant sur la croix? C'est le thème de ce matin. Et je propose qu'on prend la lettre que Paul a écrite aux Galates et qu'on parcourt cette lettre pour voir comment Paul, lui, s'approprie la croix du Christ et comment il propose aux Galates de se la réapproprier quotidiennement pour vivre toujours et toujours sous la croix du Christ. Donc je vous propose de prendre déjà vos Bibles et de les ouvrir à l'épître de Paul aux Galates. Et on va commencer au début de la lettre et on va parcourir, on va finir dans le chapitre 6. Une lettre que je redécouvre cette année, que j'ai lue avec beaucoup de profit, avec le commentaire de Jean Calvin, que je vais citer beaucoup, et que vous allez, je pense, aussi apprendre à aimer. La croix, donc, d'abord, est l'évangile que je crois. Je n'en ai pas de contexte par rapport à l'épître de Galates, parce qu'au fur et à mesure de notre parcours, nous allons découvrir quel est le contexte de cette lettre et pourquoi Paul l'écrit. Mais d'emblée, au verset 4 de cette lettre, Paul décrit l'évangile. Et ce n'est pas ce qu'il fait d'habitude. Normalement, il prie pour ses lecteurs. Il va dire merci à Dieu pour leur foi. Ou il va prier par rapport au progrès qu'ils font. Ou bien il va juste remercier Dieu pour ces personnes. Mais cette fois-ci, non. Verset 4, il décrit l'évangile. Parce que l'enjeu principal de cette lettre, c'est qu'est-ce que l'évangile? Qu'est-ce que l'évangile? Alors, il dit, le Seigneur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous délivrer du présent monde mauvais, selon la volonté de notre Dieu et Père, à qui soit la gloire à tout jamais. Amen. Verset 6, tout de suite, je m'étonne que vous vous détourniez si vite de celui qui vous a appelé par la grâce du Christ pour passer à une autre bonne nouvelle. Sous-entendu, je viens d'écrire la vraie bonne nouvelle, la seule, dans verset 4. Et vous, vous détournez de cette bonne nouvelle-là pour une autre, comme s'il y avait une autre, ou c'est comme s'il pouvait en avoir une autre. Il n'y en a pas d'autre. Et donc, il met la croix du Christ, la mort du Christ, la substitution du Christ, au centre même de l'évangile. C'est au centre de l'évangile. Et donc, la croix est au centre de l'évangile que je crois. Il donne ce résumé de l'évangile centré sur la croix. Il dit, il n'y a pas d'autre évangile. Et voilà ce que je crois. Le croyez-vous? Relisez le verset 4. Le croyez-vous? Parce que c'est ça l'enjeu d'entrée, d'emblée dans cette lettre. Il s'est donné lui-même pour nous pécher, afin de nous délivrer du présent monde mauvais, selon la volonté de son Père, notre Dieu et Père, à qui soit la gloire à tout jamais. Et si je pose cette question, est-ce que vous le croyez? C'est parce qu'il y a tentation en permanence d'abandonner l'évangile de la croix. C'était le contexte des Galates. Il y avait des personnes venues de Jérusalem pour leur dire qu'il y avait un autre moyen. Que la croix n'était pas au centre de l'évangile. Qu'il y avait quelque chose d'autre, la circoncision en l'occurrence, qui devait remplacer la croix et la foi en cette croix comme moyen d'être juste devant Dieu. Et donc si Paul le dit si clairement, et si nous le lisons aujourd'hui avec tant de force, c'est parce que demain, il serait question de votre foi en cet évangile-là. Et le jour après, et la semaine prochaine, et l'année prochaine, et dans les années à venir. Don Carson, grand prédicateur canadien qui habite aux États-Unis, qui a vraiment un ministère global, il dit, il y a toujours l'occasion de chuter et de renier l'évangile. Et ce qu'il prie, lui, qui a eu tant de succès aux yeux du monde, ce qu'il prie, lui, c'est qu'il n'abandonne jamais l'évangile de la croix. Vous serez tenté de l'abandonner. Parce qu'elle est difficile, cette croix. Le croyez-vous? Et Paul, c'est remarquable ce qu'il fait avec cet évangile de la croix. Parce qu'il va dire que mes choix moraux et éthiques dépendent de cet évangile de la croix. Quand il va contredire Pierre, le grand apôtre, devant tout le monde, publiquement, il va lui faire des reproches. Qu'est-ce qu'il va lui dire? Pierre qui a arrêté de manger avec les païens et qui mange maintenant uniquement avec des juifs circoncis, qui commence à faire une division au sein de l'Église. Qu'est-ce que Pierre va entendre des lèvres de Paul? Est-ce qu'il va lui dire, Paul, écoute Pierre, c'est pas bien, c'est pas gentil. Il ne faut pas être raciste. Il y a une règle, il y a une loi par rapport à cela. Non. Il va lui rappeler l'évangile. Regardez avec moi le verset 14 du chapitre 2 de cette lettre. Quand j'ai vu qu'il ne marchait pas droit au regard de la vérité de la bonne nouvelle, j'ai dit à Cephas, devant tout le monde, et puis il le critique pour son comportement. Vous voyez que votre comportement en tant que chrétien ne dépend pas d'une loi, d'un système, d'un règlement intérieur précis. Non, votre comportement, vos choix éthiques et moraux dépendent entièrement de la croix de Jésus et de l'évangile de Jésus en croix. Et c'est ça qui va vous motiver pour vivre une vie sainte, pour respecter tout ce que Dieu veut, pour vivre selon son cœur. C'est l'évangile, c'est la bonne nouvelle de la croix de Jésus qui fait la différence entre une vie conforme à la volonté de Dieu et une vie non conforme à son volonté. Et donc vivre selon la croix au centre de l'évangile que je crois, ça fait toute la différence. Toute la différence. Calvin, quand il commente sur ce passage, la croix de Jésus au centre de l'évangile que je crois, il dit la chose suivante. Qui connaît le Christ comme il faut? Et comment faut-il connaître ce Christ-là comme ça, crucifié? C'est comme ça qu'il faut connaître le Christ. Et qui connaît le Christ comme il faut, il l'embrasse des deux bras. Il s'arrête entièrement en lui et ne désire rien de plus. Ça m'a fait du bien, cette phrase. Pourquoi ? Parce que l'idée d'embrasser quelque chose des deux bras me parle. J'ai pas d'autres bras, j'en ai que deux. Et si je suis en train d'embrasser le Christ en croix, son évangile des deux bras, j'ai pas de bras pour d'autres options. J'ai pas de bras pour d'autres perspectives. Il n'y a pas, pour moi, à ce moment-là, d'autre évangile que celui que j'embrasse des deux bras. Et je trouve tout ce que je désire en lui, auprès de la croix. La croix est au centre de l'évangile que je crois. Deuxième chose que j'aimerais bien vous faire remarquer dans cette lettre de Paul, c'est la croix et la mort que je meurs. On a tendance des fois à dire que Jésus meurt pour que je n'aie pas à mourir. Et dans un certain sens, c'est vrai. Il meurt devant Dieu, seul. Il est abandonné par Dieu. Et cette mort-là, je la connaîtrai jamais. Parce qu'il l'a fait pour moi. Il a pris ma place. Mais dans un autre sens, Jésus meurt pour que je puisse mourir, moi aussi. Galates 2, 19. En effet, par la loi, je suis moi-même mort pour la foi, pour la loi, afin de vivre pour Dieu, je suis crucifié avec le Christ. Je suis crucifié avec le Christ. Je m'identifie, et plus que cela, à la croix de Jésus, au point où on peut dire, je suis crucifié avec le Christ. Quand on discutait de cela dans mon groupe de quartier, j'explique que dans nos groupes de quartier à l'église, il y a possibilité pour des personnes qui ne croient pas encore de venir et d'écouter, de participer et de regarder les chrétiens en train de vivre leur foi de façon normale. Et donc il y a quelqu'un dont la femme s'est fait baptiser l'année dernière qui fréquente mon groupe de quartier le mardi midi, Sébastien. Et donc on parle justement de ce thème de la mort de soi. La crucifixion de la chair, de notre ancienne nature à la croix. Et lui, il est alerté et il dit, est-ce que c'est pas dangereux psychologiquement de penser cela? Est-ce qu'on n'est pas en train de se haïr, de se détester, au point où ce concept-là, la croix et la mort que je meurs, c'est un danger psychologique? Et j'entends cela aussi assez souvent par rapport à la culpabilité, le péché, le jugement de Dieu. Les chrétiens se font du mal en pensant comme cela. Et quand on va au point où on va dire que je meurs avec le Christ à la croix, je suis en train de me suicider psychologiquement ou émotionnellement. Est-ce vrai? Moi, je dirais au contraire. Parce que la mort dont il est question dans ce verset, c'est une mort à tout ce qui est en moi de plus destructeur. Jérémie a très bien dit hier, le péché et la souffrance du Père par rapport au péché et sa colère par rapport au péché, c'est parce que le péché nous détruit de l'intérieur, nous ronge de l'intérieur. Le péché, c'est affreux. Vivement la mort au péché. Vivement la mort à ma nature pécheresse. Et donc, quand je meurs en croix avec le Christ, je meurs à cet aspect-là de ma vie qui me détruit. Et quand je reconnais à quel point je suis pécheur et à quel point j'ai besoin de Dieu, avec humilité et avec confiance, je peux dire, c'était de ma faute. J'ai péché. J'ai fait des erreurs. Je suis coupable. Mais je peux mourir à cette vie-là. Je peux mourir à cela. Et à ce moment-là, plus besoin de faire semblant, plus besoin en fait de ce décalage entre le moi que je veux donner l'impression d'être et le moi que je suis réellement. Non, les deux se rejoignent. Et je dis, oui, je suis pécheur. Oui, je suis coupable. Oui, je suis catastrophique en tant que personne. Mais Dieu est en train de me reconstruire. Merci Seigneur. Et au lieu d'être un danger psychologique, je vous propose que cette mort à la croix de Jésus, cette crucifixion personnelle de votre ancienne nature, c'est la chose la plus saine du monde. Mourez. Mourez à votre ancienne nature. Et c'est une mort objective. Jésus l'a fait il y a 2000 ans, il est mort. Et je m'identifie pleinement au jugement de Dieu contre mon péché dans la personne de son Fils. Je dis oui et amen à cela. Je le méritais, je le sais, il l'a fait pour moi et je meurs à tout ce qui est péché avec lui. C'est une mort objective. Mais plus que ça, c'est une mort en principe. Maintenant, le péché n'a plus aucune emprise sur ma vie. En principe, la victoire est là. Je peux dire non maintenant au péché, ce que je ne pouvais pas faire avant. En principe, je suis mort au péché, je suis crucifié au péché. Mais vous savez très bien, vous bataillez, vous, tous les jours, avec le péché. Vous luttez contre certains péchés mignons ou autres. Vous le savez très bien. Alors, je ne suis pas en train de prêcher un évangile de la toute victoire à tout moment, dans toutes les circonstances. Je dis en principe, oui. Mais Paul et les autres écrivains du Nouveau Testament reconnaissent bien que ce n'est pas notre vécu de tous les jours. Et donc, on peut parler aussi de la mort progressive du péché en nous. Je fais référence à Romains 8, 13. Si vous avez s'il vous plaît, tournez à ce verset où Paul parle justement de mettre à mort tout ce qui est péché en nous. En effet, si vous vivez selon la chair, vous allez mourir. Mais si par l'esprit vous faites mourir les agissements du corps, vous vivrez. C'est un processus qui a commencé avec la croix de Jésus et qui a commencé avec ma foi en lui et qui continue tous les jours et qui est bénéfique au plus haut degré. Et donc je vous encourage à réfléchir à cette mort maintenant de manière subjective. Considérez-vous mort au péché. Remerciez le Seigneur que vous êtes mort au péché parce que crucifié avec le Christ. Appropriez-vous de cette mort en votre fort intérieur pour dire oui et amen à cette mort. Car, comme dit Calvin, la croix est une mort vivifiante. Quel paradoxe, mais quelle vérité. La croix est une mort vivifiante. Nous sommes crucifiés avec Christ afin de commencer à vivre. Avant cette mort-là, vous ne vivez pas, vous existez. Après cette mort-là, vous vivez réellement en lui. Mais de quelle vie parle-t-on? Paul va le dire tout de suite. Il va parler de la croix et la vie que je vis. Regardez le verset 20 avec moi. Il peut dire, ce n'est plus moi qui vis. C'est le Christ qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi à cause de la croix. Et cette vie, elle est à la fois objective et subjective. Elle est à la fois devant la justice de Dieu et dans la communion avec Dieu. Je vais juste citer Calvin. Or, Jésus-Christ vit en nous de deux manières. La première vie, c'est quand il nous gouverne par son Saint-Esprit et conduit toutes nos opérations. La seconde est que nous faisons participants de sa justice puisque nous ne pouvons pas être agréables à Dieu en nous-mêmes, nous le soyons en lui. C'est expérientiel, c'est aussi objectif. Devant Dieu, quand Dieu nous regarde, il voit le Christ qui vit en nous. Il voit le Christ qui vit en toi. Et tu es juste parce que tu participes à sa justice et à sa vie. Mais c'est aussi expérientiel. Vous vivez quand l'Esprit Saint règne en votre vie pour conduire toutes vos opérations, comme dit Calvin. Nous vivons, pas nous, mais le Christ qui vit en nous. C'est dans la chair. On fait pas abstraction de la réalité des choses. J'ai toujours mon corps de chair et d'os. C'est toujours mes tentations, je vis toujours dans le monde. Satan est toujours là pour m'accuser. Ça, on verra demain. Mais je suis toujours là dans la chair. Mais la vie que je vis dans la chair, c'est par la foi. C'est dans la foi du Christ. Ouais, toutes les phrases, toutes les parties de cette phrase dans le verset 20 sont riches et lourdes de sens. Ma vie présente dans la chair, je la vis dans la foi. En acceptant le don gratuit que Dieu m'offre, en l'embrassant des deux mains, je vis par la foi du Fils du Dieu. Et là, je réponds à la question qu'on m'a posée. C'était qui? Voilà, c'était toi. Est-ce qu'on peut mettre en avant la souffrance de Jésus et son sacrifice personnel pour moi, plutôt que mon pardon, pour une motivation pour vivre la vie chrétienne? Et j'ai dit que Paul, il parle justement de cela dans cette lettre. Voilà qui m'a aimé. Jésus m'a aimé. Plus que cela, qui s'est livré pour moi. C'est étonnant, cette phrase. Je me rappelle, quand j'étais étudiant jeune, comme vous. Merci d'avoir ri. J'étais dans la cuisine d'une église et on parlait théologie comme on aimait bien le faire. Et on était très très intelligents et très sophistiqués. Et puis on était en train de se poser des questions sur la majesté de Dieu et sur sa gouvernance majestueuse de toute la terre. Et puis on était très très profond. C'était profond. Ça, il faut pouvoir tenir. C'était profond. Et puis il y avait le pasteur de l'église qui passait dans la cuisine. Et on parlait justement de l'amour de Dieu pour son peuple. Et donc on se disait, est-ce qu'on peut dire que c'était pour moi? Et vous savez que si j'étais le seul pécheur, est-ce que Dieu serait mort pour moi et tout, ces questions-là. Et puis le pasteur de l'église, il s'est arrêté, il a écouté un peu la conversation, il a dit, Galates 2, va. Il m'a aimé, il s'est livré pour moi. Fin de la question. Jésus t'aime. Il s'est livré pour toi. Et ça te motive au plus profond de ton être, de vivre pour lui en réponse. Il s'est livré pour toi. Et donc je ne rejette plus la grâce de Dieu. Car si la justice n'est pas la loi, alors le Christ est mort pour rien. Verset 21. En ayant, dit Calvin, avec lui une communication vraie et substantielle, nous vivons dans le monde de telle sorte que nous vivons aussi au ciel. Une communication vraie et substantielle avec le Christ. Nous faisons vraiment un avec lui. La vie que je vis par la croix, je la vis en Jésus. Mais comment? Comment avoir cette communication vraie et substantielle? C'est par l'Esprit, n'est-ce pas? Mais comment recevoir cet Esprit? C'est la prochaine question que Paul se pose et qu'il met en avant pour les Galates. La croix et l'Esprit que je reçois. C'est dans les versets qui suivent. Galates 3, 1. Galates stupides. qui a pu vous fasciner alors que sous vos yeux, Jésus-Christ a été dépeint, crucifié? Paul, quand il a prêché auprès des Galates, il a tellement décrit la croix du Christ, la mort de Jésus, que c'est comme s'il avait fait une peinture, un portrait. C'était, ça avait un tel impact émotionnel, visuel, un impact total sur les Galates, que c'était vraiment comme si Jésus était là et que son sang coulait et que les gouttes de son sang, on les sentait, on les voyait presque. Jésus, comme Paul a prêché à Galate, a été dépeint comme crucifié. Paul a passé son temps à faire ce travail-là, de présenter le Christ en croix. Prochain verset. Voici seulement que je veux apprendre de vous. Est-ce en vertu des œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit, ou parce que vous avez entendu le message de la foi? Autrement dit, est-ce que vous avez reçu l'Esprit parce que vous avez fait telle ou telle bonne action par rapport à la loi juive, parce que vous vous êtes fait circoncis par exemple, ou est-ce que c'est parce que, en entendant le message du Christ crucifié, vous y avez cru? Pourquoi avez-vous reçu l'Esprit Saint? Évidemment, c'est parce qu'ils ont cru le message de l'Évangile avec la croix au centre. Et à ce moment-là, ils ont reçu chacun, individuellement, le Saint-Esprit. Voilà la réponse à la question. Et c'est la réponse à toutes les questions qui suivent. Êtes-vous donc stupide à ce point? Après avoir commencé par l'Esprit, allez-vous maintenant achever par la chair? Avez-vous fait tant d'expériences pour rien? Si du moins c'est pour rien. Celui qui vous accorde l'Esprit, qui opère des miracles parmi vous, le fait-il donc en vertu des œuvres de la loi, ou bien parce que vous avez entendu le message de la foi? Comment recevoir l'Esprit Saint? En mettant notre foi dans le message de l'Évangile de Jésus à la croix. Voilà comment recevoir l'Esprit Saint. C'est tout l'argument de Paul. Et donc, la foi en ce message-là, où le Christ est dépeint comme crucifié, débouche tout naturellement et inéluctablement en la réception et l'expérience du Saint-Esprit. N'ayons pas peur de ce mot-là, de l'expérience du Saint-Esprit. Paul en parle beaucoup dans ses versets. Vous voulez le recevoir le Saint-Esprit? Vous voulez l'expérimenter dans votre vie de tous les jours? Vous voulez être plein de l'Esprit Saint? Paul dit, le moyen de le recevoir et de rester en communion avec lui, c'est de rester proche de l'Évangile, de la croix du Christ crucifié. Parce qu'il dit tout au long de ces cinq versets, on continue comme on a commencé. On ne change pas de cap. On ne commence pas avec l'Évangile simple de Christ en croix et puis on développe d'autres centres d'intérêt que cela pour avoir ensuite d'autres expériences de lui. Non, vous avez commencé avec l'Esprit et la croix. Si vous voulez continuer avec l'Esprit, continuez avec la croix. Galate stupide. On continue comme on a commencé. Et on pourrait passer des heures et des heures à éplucher cette pensée dans cette lettre. J'aimerais juste vous indiquer quelques versets, quelques bribes qui pourraient peut-être vous intéresser pour aller plus loin vous-même. Qu'est-ce que ça veut dire recevoir l'Esprit? Vivre le Christ, vivre par l'Esprit, faire des expériences par l'Esprit Saint. Verset 27 du chapitre 3. Vous tous qui avez reçu le baptême du Christ, vous avez revêtu le Christ. C'est comme l'Esprit nous aide à mettre le Christ comme manteau, pour vivre comme lui, pour être comme lui dans notre vie. Lisez ces versets autour de cette vérité-là. Ou bien, on peut aussi dire dans le verset 19 du chapitre 4, j'éprouve de nouveau les douleurs de l'accouchement par rapport à vous, jusqu'à ce que le Christ soit formé en vous. C'est ça l'œuvre du Saint-Esprit en vous. que le Christ lui-même soit formé en vous. En vous regardant, on voit le Christ. En vivant, je vis le Christ. C'est ça l'œuvre du Saint-Esprit en vous. Et puis, 5, 16, marchez par l'Esprit. Vous n'accomplirez jamais ce que la chair désire. Verset 22, très bien connu. Quant aux fruits de l'Esprit, c'est quoi? C'est le caractère de Jésus. Amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, foi, douceur, maîtrise de soi. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi par l'Esprit. Moi, j'ai envie de vivre tous les jours par l'Esprit de Dieu. Et pour cela, je vais regarder et re-regarder la croix de Jésus pour la méditer. Parce que l'Esprit, lui, il veut glorifier le Christ. Jean 16, 14. 2 Corinthiens 4, 6. L'Esprit a pour but de glorifier le Christ. Quel Christ? Le Christ crucifié. Alors, si vous voulez faire la joie du Saint-Esprit dans votre vie, regardez constamment le Christ et lui crucifié. Et vous allez voir, l'Esprit va animer votre vie par cela. Calvin, encore. Ce n'est pas une doctrine nue, mais une vive image et un portrait du Christ. Ce que vous croyez, la croix du Christ, ce n'est pas une doctrine nue, mais une vive image, un portrait du Christ. Regardez-le. Et quand on voit toutes ces choses-là, quand on voit la croix au centre de l'évangile que je crois, la mort que je meurs par rapport à la croix, la vie que je vis par rapport à la croix, l'esprit que je reçois par rapport à la croix, on peut se dire, mais la croix alors, ça doit cartonner partout. Tout le monde doit être amoureux de cette croix. Ça doit faire vraiment la joie de tout le monde. Et on constate avec étonnement que ce n'est pas du tout le cas. S'il y a une chose dans le christianisme, dans la foi chrétienne, qui repousse les gens, qui les effraie, qui ne comprennent pas, c'est bien la croix. Et même au sein de nos milieux chrétiens, et peut-être même au sein de certains milieux évangéliques, la croix perd vitesse. Elle est de moins en moins aimée, de moins en moins populaire. Elle est de moins en moins au centre de nos prédications et de nos réflexions chrétiennes. Et ça aussi, Paul vous connaît. Parce que justement, il dit que ces personnes qui venaient auprès des Galates pour les encourager à changer de cap et à préférer la circoncision, par exemple, à la croix de Jésus, ils faisaient justement pour éviter d'être persécutés à cause de la croix. Et donc, je dois vous dire que si vous acceptez pleinement dans votre vie, dans votre pensée, dans vos actions, la croix de Jésus, vous rencontrerez de la persécution. Et la croix veut dire que j'accepte cette persécution, comme le Christ a accepté la persécution aussi. On n'est pas plus grand que notre Maître. Bien au-delà, et en-delà de sa devise. Même quand on regarde comment Paul décrit la croix dans ses écrits, il dit que c'est folie par rapport à la sagesse des Grecs. Il dit que c'est faiblesse par rapport à la force des humains. Il dit que c'est une odeur de mort à ceux qui périssent. Paul est bien conscient que la croix, ce n'est pas un message qui va faire de lui quelqu'un de populaire, quelqu'un de bien-aimé. Et quand on considère ce qu'on a vu par rapport à la croix, si ça parle de sacrifice, ça parle de colère, ça parle de jugement, on peut bien comprendre que parler de la croix, vivre par la croix, communiquer la croix avec nos voisins, nos amis, ça ne va pas être chose facile. Et donc ça va peut-être, ou bien certainement, nous induire à être persécutés. Et quand on voit aussi que la croix parle de l'humilité, de la consécration, de la loyauté, nous pouvons bien comprendre qu'il n'est pas facile à porter cette croix de Jésus, qui nous appelle néanmoins à porter. Regardons verset 6, chapitre 6, verset 12. Tous ceux qui, dans la chair, veulent se faire bien voir, voilà ceux qui vous contraignent à vous faire circoncire, à seule fin de n'être pas persécutés pour la croix du Christ. Ça va être une tentation. Êtes-vous prêt, le moment de la persécution venue, de rester loyal, consacré, humble devant la croix de Jésus? Quand vos voisins, vos amis, les étudiants avec qui vous vivez, quand ils vont critiquer la croix de Jésus, est-ce que vous allez avoir honte de cela? Est-ce que vous allez pouvoir expliquer avec grâce, avec intelligence, comme disait Jérémie hier, que la colère de Dieu et la souffrance de Dieu et le plan de Dieu font de Dieu un Dieu de gloire? Qu'un Dieu qui peut concevoir un plan comme cela mérite toute notre gloire, toute notre louange. Il faut être prêt à accepter la persécution pour la croix du Christ. Calvin dit, pour chasser la grâce des hommes, c'est ce que font ceux qui veulent prêcher Christ sans la croix. C'est vrai qu'on parle de Dieu très facilement de nos jours, mais dès qu'on mentionne le mot Jésus-Christ, ça effraie. J'ai regardé un reportage sur la 2, je pense, et eux, ils faisaient un reportage sur un évangéliste qui fait un spectacle par rapport à sa venue en France. Lui, il est algérien. Saïd, vous la voyez qui c'est? Voilà, très bien. ou Bijou, Saïd ou Bijou qui fait un one-man show par rapport à sa venue en France. Et il interviewe donc Saïd et il parle de Dieu, de sa foi, et puis il mentionne Jésus-Christ. Et puis à ce moment-là, on baisse le son par rapport à ce qu'il dit, et celui qui fait le reportage dit: oui, vous avez bien entendu, il a bien dit Jésus-Christ. On peut bien parler de Dieu de façon abstraite, mais dès qu'on parle de Jésus-Christ, là, on dépasse les bornes. Et là, il y a une autre étape. Parce qu'on peut bien parler de Jésus, de son amour, de sa gentillesse, de sa façon de prendre les petits enfants sur ses genoux et de les bénir. Oui, on peut bien parler de Jésus, mais parler de Jésus et sa croix, voilà vraiment le test de quelqu'un qui veut être fidèle à la Bible. Parler de Jésus, oui. Parler de Jésus crucifié, il faut du courage. Parce que tout de suite, les enjeux sont d'autres. Est-ce que vous allez pourchasser la grâce des hommes? Est-ce que vous allez être tenté d'être bien vu par ceux qui vous entourent? Pour le faire, très simple. Prêcher le Christ, mais sans la croix. Tout le monde aime Jésus, sauf sa croix. La croix est la persécution que j'accepte. Mes derniers points. On peut avoir confiance, on peut avoir fierté dans cette croix. Qu'est-ce que Paul dit? Galates 6, 14. Il a pris, lui, le stylo maintenant pour écrire dans de grosses lettres, peut-être parce qu'il voit mal, peut-être parce qu'il veut souligner ce qu'il dit. Vous voyez verset 11, « Voyez les grandes lettres avec lesquelles je vous écris de ma propre main. » Donc il veut souligner ce qu'il est en train de dire et il dit la chose suivante. « Quant à moi, jamais je ne mettrai ma fierté en rien d'autre que dans la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. Par ce qui importe, ce n'est ni la circoncision, ni l'incirconcision, c'est une création nouvelle. fierté dans la croix, fierté dans ce que Jésus a fait pour moi. Avec cette fierté, avec cette confiance que j'ai, comment douter en mon cœur? Ma femme, quand elle passe par des moments difficiles dans sa vie chrétienne, qu'est-ce qu'elle fait? Elle retourne à Jésus. Elle retourne à la croix. Et quand on regarde la croix, et quand on regarde Jésus, comment douter? Comment douter de cela? De l'amour que Dieu a pour moi? Du fait qu'il m'a accepté, qu'il m'a justifié, qu'il va me glorifier, qu'il va m'accompagner tous mes jours? Lui qui n'a pas épargné son propre fils. Comment ne pas lui faire confiance? Comment douter en mon cœur? Avec la croix au centre. Comment avoir honte de lui devant les autres? Lui qui m'a aimé et qui s'est livré pour moi à la croix. Comment avoir honte de cela? Comment rougir de lui? Lui qui n'a pas rougi de mourir pour moi. Comment hésiter à m'approcher de Dieu? Dieu qui, dans sa colère, juste et sainte, et dans sa souffrance ineffable, et dans son amour profond pour nous, a projeté depuis toute éternité cette croix qui est au centre de l'histoire du monde. Comment ne pas aller vers lui et lui dire merci tous les jours pour la croix, merci pour la croix? Comment ne pas le louer et l'adorer tous les jours pour la croix? Quant à moi, jamais je ne mettrai ma fierté en rien d'autre que dans la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Calvin, face à ce verset, part dans des extases quasiment. Il dit, là où est le souverain bien, là aussi est la gloire. Où est le souverain bien? Où est notre salut, notre pardon, notre vie, notre justice? À la croix. Et si notre souverain bien se trouve au pied de la croix, là se trouve aussi la gloire. Fixons les yeux sur la croix. Toute la rédemption et ses diverses parties sont contenues dans la croix. Toute la rédemption et ses diverses parties sont contenues dans la croix. La résurrection du Christ ne nous détourne point de sa croix. Là où est le souverain bien, là aussi est la gloire. Le croyant, quand il a la croix devant les yeux, il est plein de foi. Il sait qu'il est mort au péché. Il sait qu'il vit par le Christ. Il sait qu'il a l'Esprit Saint. Il sait qu'il aura des persécutions. Mais, en fin de compte, il est fier de cette croix. Je vois la Paul en Galates. Et j'espère, vous, dans vos vies. Prions ensemble. Cette croix est pour nous vie et gloire, pardon et justice, tout en tout. Et nous voulons, Seigneur, notre Dieu, te remercier pour cette croix qui nous remplit d'amour pour toi. Seigneur, transforme nos vies par ton esprit pour vivre toujours fiers de la croix. Au nom de Jésus. Amen.